Philosophie du vivant, Père Philippe, 11 février 1983 à Rimont.
Alors, nous allons continuer à réfléchir sur ce que représentent nos sensations. Alors, je vous disais que nous sommes en présence, au point de vue philosophique, de quelque chose de tout à fait nouveau. L'expérience de ce que représente la vision. Et je prends la vision parce que c'est de fait, parmi nos sensations, la sensation la plus lumineuse. N'est-ce pas ? C'est la sensation la plus nette. Les deux extrêmes, vision et toucher. Et pour Aristote, c'est très net que c'est les deux extrêmes parce que le toucher n'implique pas de médiation. Nous sommes en contact direct avec un sensible propre, la chaleur. Une chaleur ou le froid. Et une chaleur qui doit être tempérée. Vous savez bien, quand vous prenez quelque chose, un plat qui est trop chaud, ça peut arriver. Quand il est trop froid, c'est autre chose. Mais quand il est trop chaud, quand vous prenez un plat qui est trop chaud, ben, immédiatement, vous le lâchez. À moins d'être héroïque, de dire, moi, j'ai des mains d'acier. Mais normalement, vous le lâchez. Parce que vous ne pouvez pas supporter une chaleur qui est trop grande. Alors, la sensation du toucher implique quelque chose qui est proportionnel à notre chair. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est très curieux que pour Aristote, cette question du milieu dans lequel se réalise la sensation joue un rôle très grand. C'est pour ça qu'il met toujours les deux extrêmes, le toucher et la vision. La vision, c'est juste l'inverse. Évidemment, là aussi, quelque chose de trop lumineux. Le soleil, quand il est éclatant, pas actuellement. Actuellement, vous pouvez le fixer et vous n'avez rien de mal aux yeux en fixant le soleil actuellement, parce qu'il est blanc comme une lune. Alors, c'est très bien. Et c'est par amour pour vous qu'il blanchit, pour que vous ne soyez pas illuminé en le regardant. Mais quand le soleil est dans son plein éclat, vous ne pouvez pas le fixer. Là aussi, il y a un intermédiaire et un équilibre. Aristote est très sensible à cela. Il a raison, du reste, au point de vue de ce que représente cette connaissance. Nos sensations impliquent un milieu proportionné à ce que représente l'organe de nos sensations. Alors, on va essayer de saisir, tous les éléments de la sensation. Il y a un milieu dans la vision qu'on appelle le diaphane, qu'Aristote appelle le diaphane. C'est très difficile d'employer un autre mot. C'est le milieu, c'est l'air ou l'eau. C'est un milieu qui n'est pas, lui, vu. Le milieu permet la vision. Mais si le milieu n'est pas éclairé, on ne voit rien la nuit. Vous ne voyez pas. Le milieu n'est pas éclairé. Grâce à la lumière, le milieu est éclairé. Et la lumière et la nuit, c'est pour la question de la vision. Quand il s'agit du toucher, vous êtes complètement en dehors de la question de la lumière et des ténèbres. Et vous avez un contact direct. Alors Aristote va préciser, et je crois qu'on peut le dire à sa suite, les autres choses que laisse tomber d'Aristote, il y a des choses à tomber dans ce qu'il nous dit sur l'analyse des sensations. Ce que je retiens, c'est uniquement ce qui me semble important que nous pouvons nous-mêmes vérifier. C'est-à-dire, nous partons toujours de nos expériences. Nous partons de l'expérience de la vision, de l'expérience du toucher. Et je dis bien, nous partons de ces deux expériences extrêmes. Et ces deux expériences sont extrêmes parce que justement, l'une implique un milieu, à travers lequel se fait la sensation, et l'autre n'implique pas de milieu. On est en contact direct, immédiat. Qu'est-ce que c'est que la sensation ? Alors, je me pose la question, on va se poser toutes les questions, on va analyser philosophiquement, qu'est-ce que c'est que la sensation ? Puis après, on regardera comment, d'un point de vue plus psychologique, on peut aborder le problème. Mais j'aborde tout de suite le problème au point de vue philosophique. Parce que j'aime mieux ça, c'est une arête plus directe. Je n'ai pas besoin de la psychologie pour faire de la philosophie. Au contraire, il ne faut pas trop dire ça aux psychologues, mais c'est vrai, la psychologie encombre. Parce qu'elle porte les problèmes sur le conditionnement. Et elle ne voit pas tout de suite le problème que nous devons saisir. Nous avons conscience de voir. Nous avons conscience de toucher. Et nous pouvons toucher et voir en même temps. Alors, qu'est-ce que c'est que la vision ? Bon, la vision, c'est donc une connaissance. Donc, je vous ai dit, ça c'est très important, puisque c'est là que nous avons la première notion de la connaissance. Qu'est-ce que c'est que la connaissance ? Devenir une forme eidos, dira Wittgenstein. C'est intéressant. Une forme autre qui n'est pas la mienne. On devient une forme autre. C'est ça le propre de la vision. C'est une connaissance qui me permet d'être en contact, mais plus qu'en contact, de posséder une nouvelle forme et de connaître cette forme. Donc, une forme qui est autre, qui n'est pas la mienne. Je vous regarde. Vous n'êtes pas ma forme, c'est bien évident. Je regarde une rose, parce que ça, on peut la regarder ensemble. Je regarde une rose, je regarde l'écarlate d'une rose. C'est beau, c'est pas moi. Et je le sais que c'est pas moi. À moins vraiment d'être un peu malade. Hein. Et quelqu'un qui me dirait, tiens, je deviens cette rose, c'est moi. Il va pas très bien. Immédiatement, vous dites ça avec le gros bon sens que vous avez. Là, ça c'est assez facile à comprendre. Alors, je deviens une forme autre. C'est ça qui m'intéresse. C'est que tout de suite la connaissance de la vision, me met en présence d'une forme autre. C'est ça le propre de la connaissance. Réfléchissez, qu'est-ce que c'est que voir ? Ça, c'est, on doit y réfléchir hein, philosophiquement. Qu'est-ce que c'est que voir ? On va préciser maintenant les différentes modalités. Je deviens une forme autre. Mais je deviens une forme autre, cette forme n'est pas une forme physique. Puisque je ne suis pas modifié. Je vois le soleil, je vois la lune, je vois l'écarlate de la fleur, je vois ça successivement. Je peux voir ça successivement, immédiatement, sans qu'il n'y ait aucune modification physique en moi. Et c'est pour ça qu'on dira que cette forme est une forme d'un ordre particulier, il faut bien y mettre un nom, il faut bien la baptiser, on dira intentionnelle. Je deviens cette forme intentionnelle. Et quand je dis intentionnelle, je veux dire que je deviens une forme qui n'est pas une forme physique, qui est une forme relative à autre chose. C'est ça le propre de dire forme intentionnelle. Il faut savoir, hein. On aurait pu mettre un autre mot. Comme c'est donné actuellement, l'intentionnalité, vous savez bien, avec Brentano, a repris énormément de place dans la philosophie contemporaine avec toute la phénoménologie. Donc on peut très bien employer le mot intentionnel. Ce qu'il faut, c'est savoir exactement ce qu'est l'intentionnalité dans une philosophie qui essaie de garder l'objectivité, à la différence de l'intentionnalité du sérieux. Ça, nous verrons ça, parce que c'est important. On va maintenant se balader dans l'intentionnalité. Hein. On va être dans l'intentionnalité constamment. Parce que toute la connaissance me met en présence d'un domaine nouveau que je dis intentionnel. Pour exprimer ce fait que je deviens une forme qui n'est pas la mienne, donc qui n'est pas la forme que je possède avant, qui est quelque chose d'autre, et qui, de fait, est possédé selon un mode qui n'est pas physique. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas mien, ce n'est pas physique, ça ne m'altère pas. Normalement, cette forme n'altère pas mon organe, de vision. Elle pourra, dans certains cas, m'abîmer la vue. Si c'est trop intense, ça peut me brûler. Mais normalement, non. Et j'évite, hein, j'évite. Exactement comme quand vous touchez quelque chose de trop chaud, vous évitez. Vous évitez la brûlure si vous êtes suffisamment habile, n'est-ce pas ? Et suffisamment rapide. Vous évitez la brûlure, vous ne le voulez pas. Donc, ce qui me prévient, alors que vous aimez la chaleur. On aime la chaleur. On aime de se frotter les mains. C'est la définition que donnait quelqu'un qui faisait le noviciat avec moi. C'était le bon père de Ménas, qui voulait savoir ce que c'était. Le père maître arrive en disant, qu'est-ce que c'est que la vie commune pour vous ? Moi, la vie commune, mon père, j'ai compris. Deux mains qui se frottent. En hiver, c'est très agréable, ça réchauffe. Mais ça continue de se réchauffer, de se frotter. Alors, au bout d'un certain temps, la peau s'use. La peau s'use, alors ça devient chair sur chair. Alors à ce moment-là, on aime mieux que ça ne frotte pas trop rapidement. Ça ralentit le mouvement. On s'écarte un peu. Puis au bout d'un certain temps, ça devient os sur os. Alors à ce moment-là, insupportable. Alors ça fait très bien comprendre. Au point de départ, c'est la sensation. Puis après, c'est plus la sensation, c'est du physique. Alors ça devient quelque chose qu'on évite. La sensation, normalement, n'use pas la peau. User la peau, c'est un autre phénomène. La sensation, la peau est faite pour être un intermédiaire, adapté à toucher. J'ai une peau à cause de ça. Pour toucher des tas de choses, on peut préciser les points particulièrement sensibles qui me permettent d'être en contact. Alors ce qu'il faut, c'est déterminer, et c'est ça que fait le philosophe, vous voyez. Il essaie de comprendre qu'il y a un domaine particulier de la connaissance sensible. C'est ce domaine particulier de la connaissance sensible qui n'est ni physique, ni spirituel, qui est une connaissance sensible, et qui est une forme nouvelle qui vient s'ajouter, que je possède au-dedans de moi-même. C'est vrai, je possède cette forme dans ma vision. Je vois. Je vois un objet. Je vois une couleur. Je vois la lumière, je vois une figure. Donc, il y a une nouvelle forme qui n'est pas la mienne, qui me modifie, mais qui ne me modifie pas physiquement, qui me modifie intentionnellement. Alors, vous voyez, c'est très important quand on emploie un mot, d'essayer petit à petit de donner à ce mot une signification qui soit une signification qui soit ma signification, pas celle que j'ai apprise. Ma signification, celle que je découvre à travers mes expériences. C'est comme ça que le mot, petit à petit, devient un mot qui, pour moi, a une véritable signification. Parce que c'est intentionnel, on serait bien intentionnel. L'intentionnel se distingue du physique, c'est très vrai, il se distingue du physique, et vous dites un intentionnel sensible. Vous pouvez parler d'intentionnel sensible, c'est eidos. De la vision est un intentionnel sensible. Donc je qualifie cet intentionnel en disant sensible. Et je dis même visuel. Je peux même le qualifier visuel. Il y a un intentionnel de la vision qui me permet de comprendre que cette forme a ce caractère. Donc je suis en présence de quelque chose de tout à fait nouveau. Je vais maintenant essayer de comprendre quelles sont les conditions dans lesquelles se réalise cette vision. Quelles sont les conditions ? La condition première qui m'apparaît tout de suite et qui caractérise les visions, c'est qu'il ne faut pas que l'objet soit sur mon œil. Si votre objet est sur votre œil, c'est évident, vous ne voyez plus rien du tout. Il faut une certaine distance. Il faut une certaine distance. Quand on a dit ça, ça c'est autre chose, c'est du toucher. Heureusement que ce n'est pas un mètre canon. Et que ça n'y a pas de décharge électrique. Ça, vraiment, ce serait que comme pour les vaches, le toucher de la vache, au bout d'un certain temps, il évite le toucher de la vache, sinon c'est assez gentil. Alors, il y a un milieu. Il y a un milieu. Un milieu, une distance, un milieu neutre. Un milieu nécessaire qui conditionne, parce que si ce milieu est trouble, tout va être troublé. Si ce milieu, alors c'est ça que tout de suite on a vu, ce milieu implique la lumière. Alors à la fois je vois ce milieu et il me permet de voir autre chose. C'est ça qui est très curieux et qui caractérise la vision. Vous avez la lumière, ou vous avez au contraire l'absence de lumière. Ce qu'on appelle ténèbres, mais c'est l'absence de lumière, la non-lumière. Et donc, ça, les anciens étaient très impressionnés par ça. Nous, nous sommes beaucoup moins, parce qu'on a laïcisé tout ça. C'est vrai, on connaît ça merveilleusement. Un bibliothèque peut le changer. Vous voyez bien le son et lumière. Alors vous changez le milieu. Vous changez le milieu en faisant que ce milieu soit de lumière blanche, de lumière rose, de lumière... Les chutes du Niagara. Alors on voit ça sous des lumières différentes. Très bien, vous changez les lumières, faites des chutes rouges, tout devient rouge, tout devient or, tout devient... Vous pouvez changer ça. Les anciens ne le faisaient pas, ils ne pouvaient pas le faire. Mais nous pouvons modifier ce milieu. On peut modifier ce milieu. Mais ce milieu nous permet d'être en présence d'une qualité sensible, que j'appelle les sensibles propres. Qualité sensible, sensible propre. Ce qui va déterminer la vision. Donc, première chose que je vois, il y a une condition nécessaire à toute la vision, un milieu. Et ce milieu va me permettre que ma vision sera déterminée. Je vois telle couleur. Je vois telle forme. Je vois telle chose. Donc, la vision est la vision de quelque chose. Ah, c'est propre à la connaissance. Toute connaissance est la connaissance de quelque chose. Et quand il s'agit de la vision, c'est la vision, la connaissance d'une qualité, d'un sensible propre, qui est la couleur ou la lumière. Nous y reviendrons là-dessus. C'est intéressant d'avoir connaissance de quelque chose. Ceci spécifie ma connaissance. La connaissance est déterminée par l'objet qu'elle voit. Donc, il faut, pour qu'il y ait connaissance, le milieu, et il faut aussi une dynamis capable d'être déterminée. Capable d'être déterminée, capable d'être spécifiée par le sensible propre. Cette dynamis capable d'être spécifiée par le sensible propre, c'est une capacité vitale, c'est évident, c'est quelque chose de vital, mais qui donne une réceptivité. C'est ce qui caractérise la sensation. Elle est réceptive. Je suis capable de recevoir une forme tout à fait nouvelle. Mais cette réceptivité est limitée. Ma vision est limitée. Je ne peux pas recevoir n'importe quoi. Elle est doublement limitée. C'est que je ne saisis que des sensibles propres. Je saisis aussi les sensibles communs. Vous voyez, en second lieu. Et c'est vrai, je peux saisir, je peux voir le mouvement. En réalité, ce n'est pas ce que je vois en premier lieu. Ce que je vois en premier lieu, c'est la lumière et la couleur. Mais je peux dire que je vois le mouvement. Ça fait même très bien de dire que je vois le mouvement. Je vois le mouvement, je vois la grandeur, je vois le nombre, et ainsi de suite. Tous les sensibles propres. C'est à partir de là qu'on va faire la distinction entre les sensibles propres et les sensibles communs. Et les sensibles communs. Et puis, je peux dire ensuite que c'est vrai, ma vision va aller jusqu'à voir le support. Mais ça, ce n'est pas ma vision directement. C'est parce que ma vision est liée à autre chose. Mais ce que je vois directement, c'est les sensibles propres et les sensibles communs. Et ces sensibles propres vont donc déterminer, spécifier, il y a cette capacité, cette réceptivité à recevoir cela. On ne peut pas dire beaucoup plus quand j'étudie ce que c'est que la sensation. J'ai une capacité de voir, de devenir autre chose. Alors, je peux préciser que ce sensible propre spécifie et va spécifier d'une manière immanente. Toute sensation implique un caractère d'immanence. Je porte en moi une nouvelle forme. Or, la réalité que je vois n'est pas changée par mon œil, sauf si j'ai de mauvais œil. Mais normalement, elle n'est pas changée. C'est pas parce que je vois quelqu'un, il peut rougir, mais pas plus. Mais c'est pas parce que je vois quelqu'un qu'il est modifié. Non. Donc la réalité physique n'est pas modifiée. Mon organe physique n'est pas modifié. Et ce qui est modifié, c'est ma connaissance elle-même. C'est en ce sens-là, vous voyez, que je vois, que je porte au-dedans de moi-même cette eidos, cette forme nouvelle, cette forme intentionnelle. Et la forme intentionnelle, elle est uniquement dans ma connaissance. Est-elle dans le milieu ? Les anciens disaient qu'elle est dans le milieu. Je crois qu'il ne faut plus le dire. Les anciens disaient que la forme intentionnelle voyageait à toute vitesse. Je crois qu'on ne peut pas dire ça. C'est pas la peine. C'est pas la peine de le dire. Il n'y a pas besoin de le dire. La forme intentionnelle, elle est à l'intérieur de ma connaissance. Elle est dans ma connaissance. C'est ce qui spécifie ma connaissance, c'est ce qui rend ma connaissance immanente. C'est ce qui permet l'immanence de la connaissance, de posséder cette forme. Mais je possède cette forme tant que l'objet visible, tant que l'objet sensible est présent. Dès que l'objet sensible n'est plus présent, cette forme intentionnelle disparaît. Et donc, je ne la possède pas vraiment. Elle m'est comme prêtée. C'est très clair. Là, il y a quelque chose de très, très mystérieux. C'est pas clair du tout. Elle m'est prêtée pendant que l'objet est présent. Tant que la fleur est là, je vois rouge. N'est-ce pas ? Les fleurs. N'est-ce pas ? Tant que la fleur est là, je vois rouge. Je vois quelque chose qui me frappe. Tant que la lumière est là présente, je suis impressionné par la lumière. Vous voyez ? Mais si la lumière disparaît, ça disparaît. Si la fleur disparaît, ça disparaît. Donc, cette forme intentionnelle m'est prêtée. Elle m'est prêtée par l'objet. Elle m'est donnée par l'objet. Mais je ne la possède pas vraiment. Il y a donc ce caractère de réceptivité propre à la connaissance sensible, ce caractère de réceptivité où je suis dans une réceptivité pure, sans possession. Je reçois gratuitement. C'est curieux que la connaissance commence par la gratuité. Je reçois gratuitement une forme qui m'impressionne, qui me spécifie, qui me détermine, mais je ne la possède pas. Donc je suis toujours en dépendance de cette réalité quand il s'agit de ma vision. Je suis en dépendance. Je suis tout entier relatif. Et c'est du reste un des caractères de cette forme intentionnelle. Cette forme intentionnelle est toute relative au sensible propre, à la qualité physique que j'atteins. Toute relative. Dès que la qualité physique disparaît, cette forme intentionnelle disparaît. Ceci me fait comprendre comment cette connaissance qui m'enrichit est une connaissance en même temps dans la pauvreté. Que je ne la possède pas. Je ne la possède pas. On verra comment, d'une certaine manière, on pourra la posséder, mais ça, ce sera ensuite. La sensation comme telle me laisse dans la pauvreté ma réceptivité. Une réceptivité pure qui fait que je ne possède rien. Très, très curieux, la sensation, à ce point de vue-là. C'est une connaissance qui m'enrichit et que je ne possède pas, qui m'est donnée gratuitement. Et que je possède dans cette réceptivité simple. Donc, je peux préciser, vous voyez, les diverses causalités. Je vois qu'il y a une causalité matérielle dans laquelle se réalise cette connaissance de vision, c'est cette dynamique, cette capacité, c'est au-dedans de moi-même. Il y a le caractère spécifique de l'objet, il y a la réceptivité vitale, parce que cette forme qui m'atteint, je réagis et je forme au-dedans de moi-même cette forme intentionnelle. Cette forme intentionnelle, c'est ma vision. C'est ma vision qui est la forme. Comment suis-je en contact avec les réalités sensibles ? Ça, difficile à préciser. Mais je suis en contact avec ces réalités sensibles. Et je peux, de fait, réagir, et en réagissant, je forme au-dedans de moi-même cette forme intentionnelle. Quelle est la finalité de la sensation ? La finalité de la sensation, c'est de sentir. On a du plaisir, comme dit Aristote, à voir. Normalement, on a du plaisir à voir. On a du plaisir à voir une belle lumière. On a du plaisir à avoir une belle couleur. Évidemment, quand la couleur est abîmée, on a moins de plaisir. N'est-ce pas ? Mais on a un plaisir à voir. Il y a au fond une autosatisfaction de la sensation. La sensation est par elle-même qui donne une joie. Donc, elle dilate le vivant. Ça, c'est très important. C'est en ce sens-là que la sensation repose. Ça, c'est très important de voir que la sensation repose. Elle repose le vivant, puisqu'elle donne au vivant une certaine joie. Il y a une joie de voir. Ça explique comment la sensation peut reposer. Qu'elle détend. Quelqu'un qui est très très tendu, eh bien le simple fait d'être dans un milieu, si vous voulez, quelque chose que nous ressentons dans notre milieu, ça détend. Alors, la vision détend, mais c'est surtout le toucher. Alors là, on va voir, je regarde d'abord la vision. Hein. Et c'est vrai que la vision, j'aime de voir pour voir. Ça, c'est très très important de voir que la finalité de la vision, c'est la vision elle-même. Et donc, il y a de la joie à voir. Et la joie de voir montre que la vision est finalisée pour elle-même. On va voir d'autres finalités, mais c'est la première finalité. Il y a une finalité immanente à la vie sensible. La vie sensible a en elle-même la joie de son épanouissement. Quand il s'agit du toucher, passons tout de suite à l'autre extrême. Quand il s'agit du toucher, je vois qu'il y a quelque chose d'analogue, avec la seule différence, c'est que le toucher est beaucoup plus limité. Le toucher implique, là au contraire, que ce que je sens soit tout proche. C'est le tingain, hein, le toucher. Il faut vraiment le toucher. C'est à l'intérieur du monde physique où il y a un contact que va se réaliser cette connaissance du toucher. Il faut le contact, juste l'inverse de la vision. Ce qui montre bien que le contact physique n'est pas la connaissance. Et j'ai besoin de comparer les deux pour comprendre justement la différence de la condition sine qua non de la connaissance elle-même. Puisque les deux conditions sine qua non sont juste opposées, et que des deux côtés il y a une connaissance. Une connaissance d'un sensible propre, du toucher, une connaissance d'un sensible propre, de la vision. Ce n'est pas le même sensible propre, c'est évident, puisque d'un côté c'est la chaleur et le froid, c'est le rugueux, c'est le poli, c'est ça que je touche. Cette table est agréable à toucher, très agréable, et cette eau est tiède, agréable, ça me fait du bien. C'est tiède. On vient vous dire, oh, c'est glacial, je ne veux pas rester trop longtemps dedans. Alors vous retirez. Mais au fond, il y a une sensation à partir d'un contact physique. Alors que dans la vision, l'inverse. Donc je vois tout de suite que le contact physique ou le non-contact physique est une condition sine qua non, mais n'est pas la connaissance. Il y a donc dans le toucher une connaissance plus difficile à discerner. Le toucher est beaucoup plus conditionné par le biologique. Beaucoup plus. Autrement dit, quand il s'agit du toucher, l'organe du toucher joue un rôle plus important dans la connaissance que l'organe de la vision. Ça, c'est bien évident. C'est pour ça qu'on dira que le toucher est plus proche du vivant, que c'est le toucher qui est le sens du vivant. Un vivant qui n'aurait plus de toucher mourrait. Vous savez qu'on a fait ces expériences au Canada, expériences très curieuses. Un biologiste de Fribourg qui m'a raconté ses expériences il y a quelques années, mais c'est très intéressant d'isoler le plus possible le vivant. On faisait ça pour l'homme. L'isoler le plus possible. On essayait de mettre dans une chambre, si vous voulez, où on pouvait l'isoler. On ne peut jamais l'isoler complètement, hein. C'est sûr. Parce que vous reposez nécessairement sur quelque chose. Même si on essaie de faire que ce soit le plus neutre possible, vous êtes quand même... Hein. Vous ne pouvez jamais vous isoler du milieu. C'est le propre du toucher, parce que le toucher est à travers tout le corps. Alors, il y a des points plus sensibles. C'est évident qu'on peut préciser des points plus sensibles. Et on a une sensibilité plus grande normalement, hein, au bout de ses doigts. Non, normalement, parce que si vous avez des verrues, c'est un peu du tout comme toucher. Mais autrement, vous avez une sensibilité plus grande, normalement, au bout du doigt. Alors, vous voyez, c'est la montre que le biologique, vous voyez, joue un très grand rôle, parce que si justement votre là, c'est un peu hippopotame, alors ça ne va plus. Hein. Tandis qu'au contraire, si vous avez une possibilité de toucher davantage, vous avez une sensation plus aiguë, plus nette, plus précise. Alors on a isolé le plus qu'on pouvait. Et puis on a essayé de voir combien de temps le vivant pouvait rester complètement dans cette isolé, dans cette petite, petite boîte, ce petit sépulcre dans lequel on vous mettait et on vous isolait le plus possible. Puis alors on vous disait, quand vous n'en pouvez plus, hein, pressez sur le bouton. Alors on a remarqué que les hommes résistaient beaucoup moins longtemps que les femmes. Je ne sais plus le nombre d'heures, hein, mais on a calculé ça de façon habituelle, hein, parce qu'il y a des hommes qui résistent plus les uns les autres. Ce qui montre que le vivant a besoin du contact immédiat du milieu dans lequel il est. Très très important, ça, de comprendre ça. C'est-à-dire qu'on a besoin de temps en temps d'aérer l'air, que voulez-vous, hein? Parce qu'autrement, au bout d'un certain temps, vous vous confinez dans une espèce de milieu qui fait que vous n'avez plus la réaction voulue. On a besoin de respirer, non seulement au point de vue biologique, mais on a besoin, même pour la sensation du toucher. Même la sensation du toucher a besoin de ça, de la détendre. On a besoin de respirer, non seulement au point de vue biologique, mais on a besoin, même pour la sensation du toucher. Même la sensation du toucher a besoin de ça, de la détendre. Vous voyez, puisque je vous ai dit tout à l'heure que la vision apporte une joie, il y a une joie du toucher. Et donc il y a une détente du toucher. Et la détente du toucher est à travers tout le corps. C'est pour ça que le bain détend, la douche détend. Douche froide, douche chaude, douche tiède, enfin, ça détend. Hein. Saint Augustin disait ça à sa manière, hein, en disant qu'il était nécessaire pour les gens qui étaient trop nerveux d'accepter du médecin les bains nécessaires. Hein. Il disait ça pour la vie religieuse, n'est-ce pas ? Vous voyez, c'est pas nouveau ces choses-là, hein. C'est très ancien, mais on les a perdues avec le rationalisme du 15e et 16e siècle. Alors il y a eu des couches successives, mais les gens du Moyen-Âge étaient bien plus attentifs que nous à ce que représente l'adaptation du corps par rapport au milieu. Ça, bien plus. On a perdu ça par la cérébralisation. Mais on avait besoin de comprendre, de sentir son corps. Vous voyez, le toucher, c'est ça, sentir son corps par rapport au milieu. Et que ceci permet à l'homme de... Alors évidemment, les vêtements empêchent, hein, faut qu'un petit bout de la tête, un bout des pieds, hein, c'est l'avantage d'avoir les pieds nus, n'est-ce pas ? C'est qu'à ce moment-là, on redonne vie aux orteils, n'est-ce pas ? Donc il permet d'avoir le contact avec l'extérieur. Tandis qu'autrement, mais la civilisation qui vous met des bottines, la civilisation qui vous met... Alors vous n'avez plus ce contact direct, n'est-ce pas ? Et au bout d'un certain temps, votre réalisme diminue, n'est-ce pas ? Forcément, à cause de ça. Parce que le contact n'est plus aussi fort. Le corps donne le toucher du milieu. Alors vous pouvez faire exactement le même raisonnement. Il faut donc nécessairement qu'il y ait des parties de notre corps où il y a une capacité plus grande de toucher. Mais c'est réparti sur tout le corps. C'est extraordinaire, ça. Que le toucher regarde le vivant. Et qu'un vivant qui n'aurait plus le toucher, il mourrait. Le vivant a besoin du contact avec le milieu. Vous voyez, pas seulement la nourriture, hein. Pas seulement l'oxygène, ça c'est autre chose. L'oxygène c'est la vie, c'est la respiration. La respiration c'est l'assimilation. Tandis qu'ici on est devant un domaine de l'intentionnalité, et l'intentionnalité du toucher est nécessaire à la vie du vivant. Le vivant a besoin de cela. Il a besoin, autrement dit, de se former en lui-même un milieu de connaissance. Et ce premier milieu de connaissance, c'est le toucher. C'est son milieu de connaissance. Très curieux, ces choses-là. C'est intéressant, du reste, parce que ça montre combien le point de vue de la sensation est une chose importante pour nous. Alors, vous pouvez exactement faire la même chose, ici. Comprendre que le toucher implique des sensibles propres et des sensibles communs. Il y a aussi des sensibles communs à l'égard du toucher. Quand vous touchez une meule qui tourne, vous avez la sensation du toucher du mouvement. Vous touchez le mouvement. Vous voyez le mouvement et vous touchez le mouvement. C'est extraordinaire, ça. Parce que vous touchez le chaud et le froid et vous touchez le mouvement. Vous touchez une quantité plus grande. Et vous avez par le fait même aussi la sensation d'un milieu qui est plus ou moins opaque autour de vous. C'est sûr, hein. Ça n'aime pas beaucoup, hein, d'avoir une sensation d'étouffement, d'avoir quelque chose qui fait qu'on ne peut plus bouger, qu'on est complètement limité dans un endroit. On a la sensation, vous voyez, de la continuité, la grandeur du nombre. On a la sensation du toucher de la figure. Ça, c'est très net. Le soir, quand vous circulez, tout soudainement, c'est pas que vous êtes dans, vous vous réveillez brutalement dans une chambre complètement inconnue. Oui, le soir, vous vous êtes rappelé à peu près, n'est-ce pas? Et puis, pas d'électricité tout proche, parce que l'électricité supprime tout ça, ça qui est terrible, n'est-ce pas? Parce que alors, immédiatement, on peut sur un bouton. C'est... Tandis qu'au moins avant, on était perdu dans le noir, on devait toucher où est-ce qu'on en était. Et c'est très curieux que le toucher vibré à lui-même vous donne très peu le sens de l'équilibre. Le sens exact, c'est très curieux, le toucher lui-même. Vous êtes perdu dans un monde de dimensions. Tiens, la fenêtre est là. Parce que vous touchez la fenêtre, dites, tiens, vous voyez, sensible commun qui arrive à déterminer que c'est une fenêtre. Et puis, vous dites, mais je croyais que c'est juste l'inverse. On n'a pas le sens de la chose. La vision donne beaucoup plus le sens, évidemment. Le sens de l'orientation. L'orientation, elle est donnée, c'est pas uniquement la vision, mais la vision est très importante. N'est qu'à regarder un aveugle, comment il se dirige. Et vous n'avez qu'à mettre un foulard autour des yeux, puis on vous fait tourner trois fois tout autour, hein, et après vous avez complètement perdu le sens, hein, où est-ce que vous en êtes. Complètement. C'est vite fait, c'est très très vite fait, de vous étourdir complètement, puis vous donner une direction juste inverse de ce que vous voudriez. On vous dit, oui, tu vas dans ce sens-là. On ne sait plus du tout. Et pourtant le toucher demeure, mais le toucher ne donne pas le sens de l'orientation du tout. Alors il faut saisir ce que les sens, ce que chaque sens apporte. Et la vision, la lumière, l'orientation, c'est le sens de la détermination. C'est ça que donne la vision. Un visuel, c'est un être qui est lié à la détermination. C'est pour ça que le visuel, c'est très important de comprendre cela, le visuel a un sens très aigu, donc, de la détermination, alors que le toucher, c'est le sens de la matière, c'est le sens de la quantité, c'est le sens de... C'est pas la quantité que je touche en premier lieu, hein, puisque c'est les qualités sensibles, donc c'est toujours les qualités sensibles, mais c'est des qualités sensibles liées au continu, liées au mouvement, liées au repos. C'est ça que donne le point de vue du toucher. Alors, entre deux, les deux extrêmes, une fois qu'on a vu les deux extrêmes, hein, les deux extrêmes de la sensibilité, la vision et le toucher. Alors, dites bien, toucher, donc le sens de la vie. Le sens de la vie individuelle. Ça, c'est très très important. La vision n'est pas le sens du vivant sensible, de la vie sensible. J'ai besoin du toucher pour ma vie sensible. Et toute ma vie sensible est liée au toucher. C'est pour ça que je peux dire que d'une certaine manière, hein, toutes les diverses sensations, les divers sens, ce sont des modifications du toucher. Ce n'est pas entièrement vrai philosophiquement, mais il y a quelque chose de vrai. C'est que je retrouve à travers tous les sens le toucher. Alors que je ne retrouve pas du tout les autres sens. À travers les autres. Vous ne pouvez pas dire que tous les sens c'est une modification de la vie. Alors là, c'est intéressant à voir biologiquement, vous voyez, la formation successive des différentes sensations. Parce que ce serait intéressant. Ça ne me donne pas la connaissance de la chose, mais après coup, ça confirme. Après coup, ça confirme, vous voyez. Philosophiquement, je ne regarde pas l'aspect génétique pour comprendre les diverses sensations. Je regarde les sensations telles qu'elles me sont données actuellement. Mais une fois que j'ai compris l'ordre de ces sensations, ce que nous allons essayer de comprendre, une fois que j'ai compris l'ordre de ces sensations, l'aspect génétique de la formation des organes différents des sensations est très intéressant à voir. Parce qu'alors je peux saisir quel est le sens le plus évolué. Quel est le sens le plus évolué ? C'est pas le toucher. C'est bien évident que c'est pas le toucher le sens le plus évolué. C'est sûr. Parce que c'est le toucher qui est le plus nécessaire au sens de la vie. La vue est beaucoup plus évoluée. Ça, c'est sûr, c'est le sens le plus évolué. C'est du reste ce sens qui, parce qu'il est le plus évolué, me permettra le plus facilement aussi de perdre contact. Tandis que le contact, il est donné hein, par le toucher. C'est le toucher le sens le plus réaliste. Ça, c'est évident. La vision n'est pas premièrement réaliste. Elle conduit autrement vers l'idéalisme. Les visionnaires ne sont pas des réalistes. Les visionnaires. Hein. Tandis que les gens du toucher, ça, alors là, c'est quelquefois tellement lourd. Hein, parce que c'est quelque chose. Et c'est tout le corps qui est pris dedans, qui est engagé dedans. Vous voyez ? Tandis que la vue, c'est uniquement la vue. Hein. Le toucher ne remplacera jamais la vue. Jamais. Ça, c'est impossible. Tandis qu'il y a dans le toucher quelque chose d'un réalisme très particulier. Alors vous avez donc le sens qui touche le plus, la vision, l'ouïe. L'ouïe vient immédiatement après la vision. Pourquoi ? Parce que c'est le sens aussi dont l'intermédiaire est le plus grand. Alors on peut discuter si l'ouïe est plus important que la vision au point de vue de la vie. Ça, on peut le discuter. L'ouïe vient immédiatement après la vision. Parce que c'est le sens qui me permet d'être en contact avec un sensible propre, lointain. Mais la vue va plus loin. La vue va plus loin. Elle a une possibilité de contact qui va plus loin que l'audition. Donc elle est plus victorieuse du physique. C'est la vision qui est le plus victorieuse du physique. C'est la vision qui me montre davantage combien la connaissance sensible dépasse tout le domaine du physique. Alors que le toucher me montre combien ma connaissance sensible est conditionnée par le physique. Combien ma connaissance sensible est alourdie par le physique. Combien ma connaissance sensible est liée à tout le domaine biologique. L'ouïe me montre encore la victoire de la connaissance sensible, mais moindre que la vision. Mais l'ouïe va apporter quelque chose de très particulier, c'est à cause de la voix. C'est en ce sens-là que l'ouïe va être dans un lien très particulier avec la rencontre vis-à-vis de l'homme, à cause de la voix, à cause de la parole. C'est-à-dire que dans l'Apocalypse, on se retourne pour voir la parole. Il n'y a que l'Apocalypse qui dit ça, en disant, normalement, vous vous retournez pour entendre quelqu'un qui vous parle, mais vous ne vous retournez pas pour voir la parole. Vous ne voyez pas la parole, mais vous entendez. Alors, il y a quelque chose de particulier dans l'audition, c'est la rencontre avec l'autre. Donc, c'est d'une certaine manière le sensible le plus humain. On verra ça la fois prochaine.